L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nohant-le-Vic est une petite commune française du département de l'Indre. Nous sommes à l'aube d'un été tranquille, ce que la France n'a pas connu depuis longtemps. Il est 10h du matin, ce 8 juin 1876. Alors que son agonie a duré plus de 4 heures, George Sand est sur le point de s'éteindre, dans sa chambre du château de Nohant. Sa maison, celle qu'elle a héritée de sa grand-mère il y a un demi-siècle. Dehors, les oiseaux chantent. Dans le parc de la propriété, les paons font la cour et les petits oisillons poursuivent leur mère. Tout est paisible, tout est calme. L'une des plus grandes figures littéraires de l'histoire de France part rejoindre ses pères et ses nombreux amours qui ont déjà fait la traversée avant elle. Son destin s'achève. Le mythe, lui, commence. Cette destinée, c'est celle de George Sand. 10h, l'heure âge de mon histoire. La veille de ce funeste jour, le mercredi 7 juin 1876, George Sand sait déjà qu'elle va mourir. Sa chambre est petite, elle est cossue. Elle est recouverte de papier peint bleu aux motifs blancs qui comble de l'élégance, s'accorde avec les tentures du lit sur lequel elle repose. La pièce, plongée dans le noir, n'est éclairée que de quelques bougies. La fenêtre est entrouverte, elle donne sur le parc. L'air est frais ce soir. Il est vivifiant. C'est agréable car les premiers jours chauds de l'année viennent frapper au carreau. Les merlots s'y chantent et s'ébrouent dans l'eau des gouttières avant de rejoindre leur nid lorsque se lève la lune, qui est certainement moins leur amie que ne l'est le soleil. Ce tableau presque romantique de la romancière qui repose au cœur de sa maison familiale, dans son lit, entourée de la nature qu'elle aime tant, est saisissant d'émotion et de simplicité. Nous nous trouvons dans un véritable écrin de verdure au cœur du Berry. C'est sur cet entrefait qu'entre dans la pièce Solange, la fille de la romancière. Elle porte un récipient en faïence rempli d'eau ainsi que des linges. Elle vient prodiguer des soins à sa mère qui se meurt. La gorge nouée, elle vient s'asseoir au pied du lit en se posant délicatement sur les draps de soie, comme une plume. Comme à son habitude, avec discrétion, avec respect. Tiens, c'est fou ce que les deux femmes peuvent se ressembler. Elles partagent jusqu'à leur talent puisque Solange est aussi autrice. À 47 ans, elle n'est plus une enfant, à 3 mois de son 48e anniversaire. Pour autant, elle n'est pas préparée à perdre sa mère. Cette matriarche respectée par tous pour ses engagements et dont la qualité de la plume n'est critiquée par personne. L'histoire de Sand, si sa fille devait la résumer, ce serait finalement l'art de se cacher pour mieux se sublimer. Écrire sous le nom d'un alter ego pour pouvoir mieux s'exprimer. Alors qu'un courant d'air un peu plus frais vient danser sur ses épaules, Solange se lève doucement et se dirige vers la fenêtre afin de la fermer. Mais sa mère, qui a cette fois perçu la présence de son enfant, d'une voix faible et blanche, l'arrête. Elle ne risque plus grand-chose à attraper froid de toute manière. George Sand demande à sa fille si ses deux petites filles sont déjà reparties. Non. Non, elles dorment dans une chambre attenante, mais Solange refuse d'aller les réveiller. Elles ont embrassé leur grand-mère il y a quelques heures à peine. Non. Le temps est aux soins. Et alors que la belle-sœur de Solange entre en scène pour l'aider, les trois femmes échangent quelques mots avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup d'amour. C'est sans aucun doute l'une des forces qui a construit la carrière de George Sand. La force d'une famille unie, qui est venue, un peu paradoxalement, faire bloc face à la vie amoureuse, des plus trépidantes et instables aussi, de la romancière. Divorcée depuis longtemps, elle est pourtant à la tête d'une famille à deux générations. Pour elle, c'est une immense fierté. Et comble du bonheur pour cette femme à la plume si tranchante et si juste, tous ses proches sont là pour la soutenir dans cette dernière épreuve à traverser. Au bout du chemin, une fois que son âme aura quitté la robe de chambre immaculée qui est la sienne, le passeur l'attendra dans son bateau en partance vers l'immortalité. Avant que les deux plus jeunes femmes ne quittent la pièce, la romancière a encore la force de prononcer ces quelques mots. Adieu, adieu, je vais mourir. La nuit du 7 au 8 juin 1876 s'est ainsi déroulée dans l'angoisse et l'attente funeste. Solange est restée devant la porte de la chambre, comme un valet de pied. Elle guette la moindre respiration inhabituelle ou demande de sa souveraine. Certains ont bien cherché à la relayer, mais c'était peine perdue. Telle était sa place, celle d'accompagner sa mère jusque dans son dernier soupir. Le médecin de famille a prévu de passer en fin de matinée dans quelques heures, mais Solange a comme le pressentiment qu'il sera sans doute déjà trop tard. La lune, en croissant, a veillé elle aussi sur Georges, traversant le ciel entouré de son armée d'étoiles, illuminant les cimes des arbres qui dansent eux aussi au travers les âges. L'ambiance de cette nuit, comme celle d'une cérémonie funèbre païenne, est bien entendu pesante. La respiration de Solange est haletante, comme si tout l'air disponible de Nohant était réservé à la chambre de la romancière pour l'aider encore quelques heures à tenir. Personne du domaine où elle vit n'a envie de voir mourir Georges Sand. En somnolant durant les dernières heures de la nuit, appuyée contre la fenêtre, Solange croit voir la nature bouger. Renard et Renardeau arrivent sous la fenêtre. Grive et Chouette se posent dans les branches qui donnent sur la chambre bientôt ardente. Écureuil et Daim sont là aussi, prêts à aider la matriarche. Même les fleurs, comme dans un conte de Dickens, semblent prendre vie et chanter en hommage à la reine de ces lieux. Ainsi s'achève cette nuit entre rituel et adieu déchirant. Georges Sand, elle, n'a rien vu de tout ça. Assommée par la fièvre et la douleur, elle a dormi profondément. Elle ne s'est réveillée, tout comme sa fille, qu'aux premières lueurs du jour. Solange a jeté un œil dehors. Tout était calme. La vie avait repris son cours. Seule une mésange, comme à son habitude, est venue se poser sur le rebord de la fenêtre de la chambre de la romancière. C'était là aussi un rituel de Nohant. Affectueusement, la grande dame avait surnommé ce petit être rondouillard Daniel. Voilà que Georges demande à sa fille de rapprocher son lit de la fenêtre pour voir le jour. Elle ne précise pas une dernière fois, mais Solange, à son timbre de voix, a bien compris la pièce qui se joue ce matin. Avec beaucoup de force et de détermination, faisant crisser le parquet de la petite pièce, la fille pousse le lit en bois massif vers la fenêtre. Les rideaux sont à moitié fermés, elle les ouvre, et la petite mésange regarde d'un œil curieux ce qui se trame à l'intérieur. Lucide, Georges Sand tend la main vers la fenêtre, effleure du doigt le carreau et les premières lueurs naissantes du soleil. Elle vient poser son ongle tremblant sur la tête de l'oiseau. Seule, la vitre les sépare. Il est 6 heures du matin, et alors que Daniel, la petite mésange, s'envole vers d'autres cieux, Georges est bien tenté de l'accompagner. Elle ferme alors les yeux et tombe dans un coma qui va durer 4 heures. À compter de ce moment, Solange ne va plus quitter son chevet. Elle lui tient la main, lui parle continuellement de son père, de Chopin, de la grand-mère de Georges et de toutes les aventures que leur vie commune leur a permis de vivre. Elle ponctue, au moment du dernier souffle de sa mère, sa longue litanie par un « Je t'aime, maman », presque poétique, tout en douceur. « La comptoise du salon en bas sonne les 10 heures de la matinée. George Sand ne respire déjà plus. C'est le moment que choisit le médecin de famille pour faire son entrée dans la maison avec de nouveaux médicaments. Inutile, de fait. En quittant la pièce pour lui laisser faire son office, Solange jette un dernier coup d'œil dans le parc et, au bout de l'allée, elle distingue sa mère et son arrière-grand-mère qui marchent main dans la main. C'est ainsi que commence notre histoire. Nous sommes le 27 juillet 1830, 46 ans avant le dernier soupir de George Sand. La France parisienne d'abord, puis tout entière, est en effervescence. Un parfum de révolution, de poudre, de sang et de changement est en train de triompher sur la monarchie poudrée de Mercure revenue d'entre les morts il y a 15 ans. Depuis 6 ans, règne en maître le roi Charles X, le frère de Louis XVIII qui remplaça Napoléon et surtout de Louis XVI, à qui on a coupé la tête. Sans héritier depuis l'assassinat de son fils, Charles X est en roue libre. Il bafoue les libertés et se rapproche des ultras. Ces royalistes qui veulent le retour d'un roi au pouvoir divin. Le manège dure déjà depuis plusieurs années, mais cette fois, sous le soleil ardent de l'été, la coupe est pleine. Les dernières élections françaises ont permis aux libéraux de prendre le contrôle de l'Assemblée. Leurs idées sont totalement à contre-courant de celles ultra-royalistes de notre vieux souverain à la perruque blanche. Au lieu de se ranger derrière l'opinion exprimée par ses sujets, il n'aura de cesse de multiplier les provocations qui le mèneront à sa propre perte. Charles X dissout une première fois l'Assemblée le 16 mai. Il organise de nouvelles élections législatives qui, oh surprise, ne lui sont pas favorables non plus. De 221 députés, voilà l'opposition grande gagnante par chaos de 274 sièges, soit 53 de plus, camouflés pour le roi. Qui se rebiffe. Faisant preuve d'une attitude bien enfantine, il refuse de se soumettre, redissout l'Assemblée encore une fois, en prévoyant des élections à la rentrée de septembre 1830. Mais, malin comme un vieux loup ayant un peu perdu la vue, il décide de faire passer entre-temps au Moniteur, le journal officiel du pouvoir, 4 ordonnances. En quoi est-ce problématique, allez-vous me demander ? Eh bien, ces ordonnances viennent changer les lois, notamment les lois électorales visant à favoriser les plus riches, qui sont majoritairement de son côté. Ces lois paraissent dans la presse le 26 juillet, le lendemain. C'est le coup de sifflet de départ d'une révolution puissante et réformatrice qui durera 3 jours. Elle est entrée dans la légende sous le nom des Trois Glorieuses. C'est dans ce contexte de renouveau politique qu'apparaît sur notre chemin, à cheval, en Amazone, comme toute noble qui se respecte, Aurore Dupin. Non, vous n'êtes pas perdu, rassurez-vous. Simplement, George Sand n'est pas encore né. Pour le moment, elle est toujours une autre femme dont l'esprit déjà s'affirme. Son magnifique cheval alezan au reflet cuivré piaffe à l'approche d'une petite calèche sur une route départementale de l'Indre. D'un geste ferme de la main, l'expérimentée cavalière le remet sur le droit chemin. Dans sa robe de satin bleu, large, bouffante, Aurore Dupin se dépêche. Elle est attendue. Alors que sa voiture personnelle tirée par ses 2 frisons était prête à partir, elle a préféré prendre la route par elle-même. Ses invités lui ont permis de passer la nuit sur place, ce qui permet certaines libertés de voyage. Sa ceinture, trop serrée, semble presque lui couper le corps en deux. Ses boucles noires dansent à chaque pas de son destrier sur les pavés et le sourire qui se lit sur son visage ne trompe pas. 1830 est décidément une bonne année pour elle. Personnellement déjà. Elle se sent libre, enfin. Oh, il faut dire que son mariage, depuis bientôt 2 ans, bat de l'aile de manière alarmante. D'abord parce qu'Aurore a trouvé un amant. Ensuite, parce qu'elle a mis au monde une fille, Solange, en 1828, dont la paternité est au moins contestée, sinon pour le moins débattue. Pour finir, son mari, Le notable Casimir Dudevant s'est mis à boire, à l'insulter copieusement et à copuler presque aux yeux de tous, avec les servantes. Autant vous dire que dans un petit département comme celui de l'Indre, ces histoires font le bonheur des gazettes et des commères. De vrais feux de l'amour avant l'heure. Le fait est qu'à Nohant, les époux font désormais chambre à part et qu'aujourd'hui, elles s'apprêtent, sans le savoir encore, à rencontrer l'amour une nouvelle fois. Aurore, future Georges, est déjà particulièrement, comme vous pouvez le voir, une bonne vivante. Elle aime la vie, elle est instruite, très intelligente et particulièrement vive d'esprit. Elle est douée en dessin et aussi en écriture. Mais la mue n'est pas encore totalement opérée. Un peu de patience. Voilà que l'histoire avec un grand H s'en mêle. Le roi vient d'abdiquer. Aurore est une femme au fait de la politique et au cœur des débats que cela peut engendrer. Elle s'est opposée lors de ces fameuses élections successives au candidat royaliste, un parti qu'elle déteste. Aurore est en secret pour le retour du bonapartisme, qui tranche dans le vif et qui protège les acquis et les libertés glanées au prix du sang. C'est une prise de position déjà courageuse avant même l'éclatement des Trois Glorieuses. Mais elle est fille de militaires, d'un officier même, du premier empire du grand Napoléon qui, comble de l'horreur pour ses partisans, est mort il y a 9 ans sur un rocher balayé par les vents entre l'Afrique et le Brésil. Alors cette révolution, elle la vit comme une véritable bouffée d'air frais. La possibilité d'enfin faire bouger les choses, d'enclencher les changements que la société demande depuis des années. Enfin, c'est du moins ce qu'elle espère. C'est porté par cette volonté d'évoquer la suite du combat politique à mener que le 30 juillet 1830, Aurore se rend dans un autre château de l'Indre. Vous le savez bien, la France est un pays de châteaux. À cette date, tout est encore possible. Le flou règne tant et si bien que la brume provoquée par le départ forcé de Charles X laisse apparaître les spectres de nouveaux troubles ou l'émergence de nouveaux régimes. Les uns et les autres s'affairent en coulisses. Ce soir-là, entre fumée de cigarettes et effluves d'alcool, discutant au coin d'un feu qui ne cesse de croître, Aurore rencontre Jules Sandeau, un jeune écrivain moustachu à la verve plus élevée que celle de ses comparses. Au premier regard, elle tombe instantanément amoureuse de son œil qui pétille et qui vibre à chaque fois qu'il a la possibilité de s'exprimer. Et que dire de sa liberté ? Aurore est appelée, happée par ce jeune homme qui lui ouvre bien volontiers les bras et qui, dès les premières semaines de leur idylle, l'enjoint de le rejoindre à Paris, là où tout se passe. Aurore est tentée et se sait face à son destin. C'est à cause d'une dispute plus violente que les autres avec son mari au mois de décembre qu'elle prend la décision fatidique. Elle ira vivre au cœur de la capitale. Il faut dire qu'elle vient de tomber sur le testament de son mari qui la cloue au pilori en représailles de son comportement. Quelle indignité! Quel manque de franchise! Non, la coupe est pleine, elle déborde même. Le 4 janvier 1831, Aurore obtient un permis de travestissement à Châteauroux, à la préfecture de police du département qui l'autorise à porter un pantalon. Elle quitte Nohant à toute vitesse avec son fils dans un attelage dont les frisons transpirent dès le premier virage. Elle veut arriver à Paris aussi vite que possible. Ce sont les chevaux qui, dans un froid polaire, vont trimer. Ses premières semaines à Paris, déjà, imprègnent son nouvel être qui est en gestation. Aurore jette ses robes et ses tenues féminines pour porter cravate en laine, chapeau en feutre mou et une redingote guérite. C'est moins coûteux et plus pratique de s'habiller avec des costumes d'hommes. Plus passe-partout aussi, plus rebelle. Bref, ce qu'elle recherche. Le Paris de 1831, c'est le royaume de l'extravagance dans le quartier latin. au sein duquel les artistes et les écrivains redoublent d'ingéniosité et vivent d'effervescence, d'amour, de fête, de création. Aurore y est dans son élément. Elle affiche sa liaison avec son jeune moustachu. Tous deux deviennent journalistes au Figaro sous la direction d'un homme qui va porter le début de carrière de la romancière, Henri de la Touche. C'est à cette époque que le tandem écrit son premier roman, Rose et Blanche. Mais impossible de mettre un seul nom sur la couverture de l'ouvrage. Il faut donc opter pour un pseudonyme. Celui de Jules Sand est choisi. Jules pour le prénom de la face masculine du duo. Sand en référence à Carl Sand, un étudiant bavarois qui en 1819 a assassiné l'un des leaders politiques autoritaires de Bavière. Tout un programme. En tous les cas, ce premier bouquin est un succès de librairie. Tellement qu'un autre éditeur vient réclamer sous le même pseudonyme une deuxième publication. Pour voir sa fille qui ne l'a pas encore rejointe, Aurore a passé l'hiver 1831-1832 à Nohant dans son château de famille. Elle en a profité pour rédiger un nouveau roman du nom d'Indiana. Elle le soumet à son amant, qui a le courage, en toute ironie, de décliner la copaternité de cette œuvre de peur qu'elle soit ratée. C'est alors le directeur du Figaro qui enjoint Aurore de changer de nom. Elle se refuse à publier sous son vrai nom, de peur des freins sociétaux que connaissent les femmes publiant sous leur identité de genre. Ne voulant pas renier ses racines et cherchant un rapport avec son Berry bien-aimé, elle se décide pour le prénom Georges, qui signifie « celui qui cultive la terre ». Pour elle, un synonyme de Berrichon. C'est décidé. Sand étant de son inspiration, elle le conserve. Georges Sand est né. Le tout sans S au prénom, attention. Pour cultiver ce côté androgyne du personnage.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à l'une des plus grandes dames de la littérature française, Georges Sand. Originaire du Berry, celle qui est née Aurore Dupin va vivre avec passion les événements politiques du pays des Lumières, en pleine révolution des Trois Glorieuses. Malheureuse en ménage, la mère de deux enfants quitte son Berry natal pour partir à l'assaut de la capitale. Et après avoir publié un premier roman en tandem avec son amant, elle lance sa carrière solo sous un pseudonyme qui va entrer dans l'histoire, celui de Georges Sand. Nous sommes le 25 novembre 1834. Le temps est maussade, tout comme le cœur de notre héroïne du jour qui pose pour l'un de ses amis, peintre de légende, Eugène Delacroix. Sur un coup de tête, elle vient de se couper les cheveux, au-dessus des épaules une nouvelle fois, et elle est habillée, comme l'est à Paris, un homme de moyens modestes, alors qu'elle est déjà une star. Mais Georges est profondément malheureuse en honorant ce rendez-vous. Elle vient de se séparer de son grand amour, Alfred de Musset. Quelle relation que celle qu'ont partagée ces deux tornades en constante tempête. Oh, Delacroix se garde bien d'ailleurs de donner son avis. Il fume sa pipe et écoute les plaintes de son ami. Il donne pour seule réponse des coups de pinceau. En l'espace de deux romans, Sand est passé d'étoile montante de la littérature à star confirmée. Après Indiana sort Valentine, les deux font un carton et permettent à la romancière de vivre confortablement de son art. Le syndrome de la page blanche, elle ne le connaît pas. Elle ne l'explique d'ailleurs pas, cette facilité qui semble presque un cadeau divin. Elle écrit, encore et toujours, tous les jours, avec rigueur, avec passion. Et rien ne l'arrête. Elle préfère sauter un repas plutôt que de manquer l'écriture d'une fin de chapitre. Son idée de départ en tête, elle brode, joue avec les mots comme les musiciens jouent avec les mesures et ne trouve de repos que lorsque l'ouvrage est terminé. Rendez-vous compte. Deux romans en quelques mois qui, chacun avec des thématiques différentes, font le bonheur des critiques et des lecteurs. Le talent à l'état brut. Et Sand se fait ouvrir des portes. En 1832, elle se lie d'amitié avec la célèbre actrice de théâtre Marie Dorval. Sand passe des heures à l'écouter déclamer sur scène, puis elles se rejoignent pour des dîners endiablés et stimulants. D'un point de vue plus personnel, l'idylle avec son Jules pour lequel elle est montée à Paris ne durera pas. Elle le quitte, le jugeant nonchalant, paresseux. Son constant besoin d'aventure, cette soif que rien ne semble pouvoir assouvir, la pousse au changement constamment. Et puis, le 17 juin 1833, cela a été comme une évidence. Delacroix, lui qui est toujours en train de peindre, prend sa respiration. Celui qui a réalisé la liberté guidant le peuple, également déjà au sommet d'une gloire devenue aussi immortelle que celle de Sand, s'apprête à entendre une nouvelle fois cette histoire d'amour entre Musset et son ami. Tant d'amour, ça lui file la nausée. Mais revenons à nos moutons. Le 17 juin 1833, les deux amoureux se rencontrent pour la toute première fois lors d'un dîner organisé par le directeur de la revue des Deux Mondes. Ce dernier entretient, contre rédaction de quelques pages littéraires, bon nombre de futurs grands écrivains. Parmi eux, Georges Sand donc, mais aussi Alfred de Musset. Nouveau coup de foudre, réciproque, et qui ne se concrétise pas immédiatement. Il faut attendre la fin du mois de juillet, avec la bénédiction des oiseaux chantants et du bruissement des feuilles au jardin du Luxembourg, pour voir naître cette idylle. Elle conduira à la création d'œuvres majeures de la littérature française, du moins leur rupture. Mais nous n'en sommes pas encore là. Les amants décident de partir au mois de décembre 1833 en Italie pour un road trip très 19e, histoire de s'inspirer de l'antique Rome éternelle et des villes qui l'entourent. Mais de Musset est un coureur de jupons invétéré. Tout ce qui bouge l'intéresse. Alors que Sand doit rester alité durant 2 semaines à la suite d'une fièvre, il ne l'attend pas sagement au coin du feu, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il court les bars et les bordels, s'enivre sans aucune espèce de remords. Alors arrivé à Venise, il espère qu'ils se rabibocheront dans la ville des amoureux, logique. Mais cette fois, Sand a fermé la porte à double tour. Non, tout de même, Alfred, jouer au goujat n'est pas sans conséquence. Et tous ceux qui croient au karma vont être servis. Voilà que lui aussi attrape une fièvre carabinée qui le cloue au lit. Des crises de délire folles accompagnent la maladie. Et la romancière, qui décide de passer l'éponge, reste à son chevet. Inquiète, elle finit par faire appel à un jeune médecin italien que la logeuse lui a conseillé. Et là, vous me voyez venir. Bingo ! La jeune femme tombe éperdument amoureuse du médecin, fricotant avec lui pendant qu'Alfred est au bord des limbes. Elle attend que son ancien amant aille mieux pour lui dire la vérité. Abattu mais stoïque, il accepte son triste sort et rentre seul à Paris, quittant Venise en mars 1834. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Mais que nenni, ces deux-là nous réservent encore quelques surprises. Toujours amoureuse de son médecin italien, Georges Sand rentre avec lui à Paris en août de la même année. Musset attend tapis dans l'ombre et réclame à son ancienne muse une entrevue. Là, Sand avoue à Musset qu'elle pense être à l'origine de leur séparation, songeant même au suicide devant la montagne de remords. Pour toute réponse, le romancier fait alors le choix de quitter la France pour la Suisse, tandis que notre héroïne retourne dans son château du Berry, laissant son Italien tout seul à Paris. Je vous épargne l'ensemble des rebondissements de cette saga absolument dantesque. En tous les cas, on notera un retour, une rupture provoquée en novembre par l'écrivain. Sand se coupe les cheveux et les envoie par colis à son ex-amant. Il revient. Ils sont de nouveau au paradis, mais Georges Sand finit par en avoir marre et rompt définitivement le 6 mars 1835. Cette idylle l'une des plus célèbres de l'histoire de France, pourrait assurément faire l'objet d'une représentation théâtrale en bonne et due forme. Si les deux amants sont exsangues à son crépuscule, leur relation leur inspire des trésors littéraires. Les trois premières lettres d'un voyageur pour Sand, la confession d'un enfant du siècle pour Musset, rien que ça. La vie amoureuse de Sand est finalement à l'image de sa vie, impétueuse en constante évolution, aussi spontanée et destructrice qu'inspirante et vectrice de renaissance. Ayant quitté Musset et ses chagrins perpétuels, elle doit définitivement faire le deuil de cet amour en soi inachevé, puisque le romancier meurt de manière prématurée. Elle se sépare aussi, et enfin, officiellement de son mari en 1836. Le divorce n'existait pas à l'époque. Elle rencontre alors un orateur de l'ancienne capitale du Berry, Michel de Bourges, qui lui servira de relation-pansement durant ses années charnières. Elle se lie d'amitié avec un autre personnage célèbre, le chétif et maladif compositeur Franz Liszt. Lui vit un début de passion avec Marie Dagout, amie de la romancière. Sand, de son côté, vient de finalement faire la connaissance de celui qui sera un autre de ses grands amours, Frédéric Chopin. Oui, mesdames, messieurs, Georges Sand est en tout état de cause attiré par la célébrité. Les deux amis partagent avec vigueur et passion les notions d'humanisme social et religieux. Ils vont se dédier l'un à l'autre des textes qui feront date. Et ces valeurs de fraternité seront sublimées dans leurs œuvres respectives. Côté cœur donc, la fin de la décennie 1830 est porteuse de renouveau lorsque s'installe Chopin dans la vie de la romancière. Le génial compositeur, en admiration devant le talent de son amante, lui est particulièrement redevable. En effet, Chopin est tuberculeux. Alors que cette maladie contagieuse aurait pu rebuter la romancière, au contraire, elle encourage son attachement indéfectible à cet artiste, qu'elle aussi admire sincèrement. Et bientôt, leur amour passe à sens unique. Elle qui aime les plaisirs de la chair se heurte au chaste compositeur malade qui, disons-le, ne voit en elle qu'une bonne infirmière. De Chopin, Sand écrira même « Je vis avec lui comme une vierge ». Ambiance donc. À cette époque, une brouille maritale et passagère éclate entre Georges et sa fille. Chopin fait le choix funeste de prendre parti pour Solange Sand et se fait chasser de Nohant. Disons là aussi que ce nouvel opus des brouilles entre les deux amants, si l'on peut dire, est avant tout un prétexte utilisé par la romancière pour le quitter, las de jouer les médecins à domicile. Or, de toute façon, son état de santé se détériore constamment et le musicien va mourir 2 ans plus tard. Pour Sand, cette nouvelle rupture provoque un ras-le-bol généralisé de relations avec les hommes. Pour un temps, du moins. La période qui s'ouvre à elle, en revanche, va lui permettre d'asseoir les fondations de sa postérité. En effet, de manière très officielle, la romancière décide de se lancer en politique. L'heure de l'engagement a sonné.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H qui nous occupe est au cœur d'une France de tous les bouleversements. Cette période permettant la naissance et le développement de nombreux artistes. Parmi eux, Georges Sand est une romancière de grand talent qui se sert de son destin personnel, qu'il soit amoureux ou social, pour rédiger des œuvres qui feront date bien après sa mort. Au début des années 1840, après ses histoires d'amour ratées avec Musset et Chopin, elle décide de faire une croix sur les relations amoureuses pour un certain temps. Elle s'engage politiquement. Sand, jamais à court d'inspiration, se lance dans la rédaction et la publication d'un journal local, dans son Berry qu'elle aime tant. Georges Sand fut, c'est de notoriété publique, très déçu des suites des Trois Glorieuses qui amenèrent au pouvoir le roi Louis-Philippe. Celle qui, à l'époque, flirte avec le bonapartisme, aurait voulu le retour d'une république alors que l'aigle était déjà mort depuis 9 ans en 1830. Voir ainsi arriver un dérivé des Bourbons aussi mou que peu charismatique sur le trône de France l'a particulièrement agacé. Fort heureusement, le peuple français est un adepte de la grogne quand il n'est pas content. En 1848, il décide de renverser celui qu'on caricaturait volontiers en poire. George Sand est alors proche d'un membre du gouvernement provisoire qui se constitue, Louis Blanc. Les deux amis sont ravis lorsque la Deuxième République, enfin, est proclamée. Quittant Nohant-sur-le-Champ, la romancière arrive à Paris le 20 mars 1848 pour collaborer dans de nombreux journaux républicains. Elle est aux anges, à vrai dire. Le nouveau président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de qui, vous savez, est également l'une des relations épistolaires de la romancière. Cependant, il avance masqué vers le retour de l'Empire en France, et rapidement. La gauche républicaine, dont Sand fait partie, s'en rend compte. Cela déclenche une folle journée de manifestation le 15 mai 1848, à la suite de laquelle de nombreux responsables politiques du bord gauche seront mis sous les verrous, de Barbès à Raspail. L'échec de cette journée a un goût particulièrement amer pour notre héroïne qui doit se résoudre une nouvelle fois à regagner son Berry natal. La déroute de la Révolution au sens large de 1848 sonne pour elle le glas de cette période d'engagement et le début de désillusion qui la poursuivront toute la fin de sa carrière littéraire. Elle en vient à se questionner sur la notion du bonheur du peuple, se demandant même s'il ne s'agit finalement pas que d'une envolée utopiste. Et l'histoire, comme souvent, vient percuter de plein fouet la théorie des penseurs. Le 2 décembre 1851, tout un symbole. Le Second Empire est proclamé. La République n'aura vécu que 3 petites années. Arrestation, déportation, censure sont de retour. Son ami Adolphe Thiers et beaucoup d'autres sont mis sous les verrous par le nouveau régime. Sand ne peut se taire. Elle écrit des courriers à l'empereur qui reste sans réponse. Alors, vous commencez à la connaître. Elle insiste, encore, toujours, et finit par obtenir 2 audiences. L'empereur l'écoute réclamer une amnistie générale, qu'il refuse. Elle obtiendra cependant quelques remises de peine, puis s'en retournera à Nohant. La presse est censurée. Elle ne peut donc plus publier son petit journal et décide alors de continuer à s'exprimer dans ses romans ou dans ses pièces de théâtre. La militante du premier rang se range dans l'ombre. La fin de vie de la romancière est beaucoup plus calme et se concentre bien souvent à Nohant, dans ce château hérité de sa grand-mère en 1820. Dans l'embarras financièrement, George Sand écrit, pour vivre, des pièces de théâtre sur commande. Elle se lie d'amitié avec un certain Gustave Flaubert. L'auteur de Madame Bovary va animer cette fin de vie autour de dîners mondains et de week-ends champêtres à Nohant. Sand devient la seule femme admise au dîner littéraire du restaurant Magny dès 1863 à Paris. Elle y rencontre Edmond Goncourt, son frère Jules, Ernest Renan ou encore Alexandre Dumas-fils. Que du beau monde. La romancière aux cheveux gris adore cette constante stimulation intellectuelle. Sa dernière passion politique est la chute du Second Empire et le retour de la République qui, cette fois, va durer. Sand ne pourra hélas le voir longtemps. Au début des années 1870, elle continue d'écrire 1 ou 2 romans à l'année. Déjà en 1872, elle souffre de douleurs abdominales qui s'installent. Mais elle ne dit rien, à personne. Comme un symbole, le 23 mars 1876, elle complète son testament et le 28 mai, annonce enfin à son médecin qu'elle s'attend à un départ rapide. Il arrivera, comme nous l'avons vu, le matin ensoleillé du 8 juin de l'année 1876. George Sand avait 71 ans. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation extraite d'une lettre de l'autrice à l'un de ses plus fidèles amis, Gustave Flaubert. Partageait-il plus que ça ? Peut-être. Peut-être, l'histoire ne nous le dit pas. Mais ce passage, en tous les cas, arraché entre deux pages, montre à lui seul tout le talent, toute l'habileté et surtout la vision de la vie toute particulière, de celle qui continue de fasciner le monde entier, grâce entre autres à la petite fadette ou les maîtres sonneurs. Je t'aime d'autant plus que tu deviens plus malheureux. Comme tu te tourmentes et comme tu t'affectes de la vie. Car tout ce dont tu te plains, c'est la vie. Elle n'a jamais été meilleure pour personne et dans aucun temps. On la sent plus ou moins, on la comprend plus ou moins, on en souffre donc plus ou moins et plus on est en avant de l'époque où l'on vit, plus on souffre. Nous passons comme des ombres sur un fond de nuages que le soleil perce à peine et rarement. Et nous crions sans cesse après ce soleil qui n'en peut plus. C'est à nous de déblayer nos nuages. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.